Europe 1.
16h-18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
L'image de Karl Lagerfeld est à la fois nette et flottante. Elle se dessine à longueur d'articles, vantant un homme aux multiples visages et aux changeantes vérités que de répétitives interrogations échouent souvent à éclaircir. À commencer par sa naissance, à Hambourg, en Allemagne, le 10 septembre 1938. Ou bien, est-ce 1935 ou 1933? Le jeu de piste autour de l'année où il a vu le jour occupa longtemps les commentateurs jusqu'à ce qu'un quotidien allemand publie son acte de baptême, en 1933 donc. Ce qui n'empêchera pas Karl Lagerfeld de continuer à semer le trouble en affirmant que sa mère avait modifié la date sur le document. « Je ne suis même pas né le 10 septembre », affirmera-t-il. Pourquoi donc tant de mystères sur un élément qui peut paraître insignifiant? Après tout, l'année n'a que peu d'importance. Ce jeu semble en revanche être révélateur d'une personnalité qui se forge dès l'enfance dans l'imaginaire, dans une fuite de la désagréable réalité, dans le beau plutôt que dans le vrai. Être né en 1938, comme Karl Lagerfeld l'a longtemps affirmé, attesterait de ce qu'il a répété à l'envi sur une enfance durant laquelle il n'aurait pas vraiment subi la guerre ou les affres du nazisme. Pourtant, il a bien vu flotter les drapeaux ornés de croix gammées. Il a bien vu les réfugiés affluer quand l'Allemagne était aux abois. Et il a bien dormi dans une grange derrière sa propre maison quand les Alliés ont réquisitionné la demeure familiale. En a-t-il souffert? Sûrement. Alors, autant effacer cette enfance qu'il a toujours qualifiée d'ennuyeuse, simplement occupée à dessiner, à lire et déjà à se vêtir avec élégance. Il a donc 20 ans et non 15, comme il l'affirme, lorsqu'il arrive avec sa mère à Paris en 1952. Karl Lagerfeld remporte l'année suivante le premier prix du concours de mode ex aequo avec d'autres jeunes créateurs, dont un certain Yves Mathieu Saint-Laurent, que l'on connaîtra bientôt sous le nom d'Yves Saint-Laurent. Premier pas dans la mode et début d'une relation avec le futur grand couturier qui, entre amitié, jalousie et rivalité, fera elle aussi couler beaucoup d'encre. Karl Lagerfeld devient rapidement un brillant styliste. Il entre dans diverses maisons, Balmain, Patou, puis un peu plus tard, Chloé, Fendi et d'autres, conscient que l'avenir est au prêt-à-porter plutôt qu'à la haute couture, lui qui dessine plus qu'il ne fabrique. Ce qui ne l'empêche pas de prendre les rênes de la maison Chanel, à laquelle il redonne ses lettres de noblesse dans les années 80. Avant Chanel, entre les années 50 et 70, Karl travaille beaucoup et fréquente le tout Paris. Il brille par son esprit, son immense culture et ses airs de noble du XVIIIe siècle que son inimitable accent vient parfaire. Il est après tout un aristocrate. Son père est un baron danois, ou plutôt suédois, comme il l'affirme ensuite. En réalité, son père n'est ni baron ni suédois, mais un riche industriel bien allemand. S'il est sûrement utile de se donner des origines scandinaves plutôt que germaniques dans la France d'après-guerre, il est aussi commode de parer aux éventuelles questions sur les quelques compromissions avec le régime nazi, qui furent elles bien réelles. Son père, Karl Lagerfeld, semble vouloir en minimiser l'importance, décrivant un homme lointain et absent, un homme qu'il a pourtant sûrement influencé dans son rapport à la réussite et au travail incessant, un homme polyglotte qui a eu mille vies entre Allemagne, Venezuela et Russie, des vies que Karl, lui, s'invente. La personne dont Karl Lagerfeld parle le plus, c'est sa mère. Fut-elle une grande bourgeoise, une aviatrice, une habituée des nuits berlinoises des années folles? Elle est, en tout cas, selon les dires du styliste, une mère castratrice, à la limite de la cruauté, une femme dure, ironiquement acerbe, égoïste, bien que parfois généreuse. On dirait qu'il brosse là un portrait de lui-même. Et si terrible qu'elle ait pu être, le grand couturier l'accueillera toujours et longtemps à ses côtés. Et c'est dans le château qu'il a acquis en Bretagne qu'elle s'éteint en 1978. Car oui, Karl Lagerfeld est châtelain. Bien né, il est rapidement devenu très riche, ne lésinant jamais à la dépense pour meubler ses diverses demeures à Paris, Biarritz, Monte-Carlo, Rome ou ailleurs. Autant d'univers que Karl met en scène, tantôt décoré de meubles Louis XV, tantôt de design italien aux couleurs criardes, puis minimaliste et épuré. Il change de mobilier au gré de ses envies ou de ses redressements fiscaux. Karl saute d'une demeure à l'autre, comme il jongle avec les langues, lui qui parle couramment anglais, allemand et français. Chaque idiome lui permet de raisonner différemment. Cette capacité à changer de langue, de mode de pensée, d'environnement domestique autant que professionnel, témoigne que Karl Lagerfeld déteste l'immobilité. Le changement est la façon la plus saine de survivre, dit-il. Et s'il est une chose qui ne peut a priori être changeante, c'est bien une biographie. Est-ce pour cela qu'il ne regarde jamais son passé ou le construit en fonction de ses envies? Ce qui intéresse Karl Lagerfeld, c'est la création, au présent. L'apparente simplicité de quelques coups de crayon qui transcrivent l'essence du style et de l'élégance de ses créations s'oppose à l'enchevêtrement de ses déclarations sur sa vie et aux efforts qu'il fournit pour se créer un personnage. Car au-delà des vêtements, ce qu'il forme et façonne, c'est lui-même. Et à force de jouer avec la réalité, le créateur ne disparaît-il pas derrière la créature ? Après avoir été une sorte de caricature de séducteur italien ou d'aristocrate d'Ancien Régime, puis éphèbe aux muscles saillants ou élégant dandy offrant les plus fastueuses fêtes sans jamais profiter des délices de l'excès, se saoulant au Coca-Cola Light plutôt qu'au champagne avant de frôler l'obésité, Karl Lagerfeld finit par se calcifier dans le costume que nous lui connaissons. Pantalon serré, veste noire ajustée sur col blanc, fige sa mince silhouette. Karl Lagerfeld préfère cacher son regard pourtant doux et aimable derrière le masque au teint de lunettes fumées qu'il n'enlève jamais, du moins en public. Plus qu'une tenue, c'est un véritable uniforme. Il disparaît derrière l'habit. Brouiller en permanence les pistes sur sa vie et ses origines lui permet de devenir une sorte d'être hors sol, sans passé, sans histoire, dont la substance charnelle s'évapore presque derrière le vêtement. Un être qu'il est donc plus aisé de façonner à sa guise. « Je ne veux pas être une réalité dans la vie des autres, disait-il. Je veux être une apparition. » Est-ce de la pudeur? Un souci de liberté? Une obsession du contrôle? Le fait est qu'à partir des années 2000, le corps fondu dans ses tenues toujours semblables, sa personnalité se cache encore plus derrière la marque qu'il est devenu. Karl Lagerfeld. Son nom et sa silhouette sont un produit. Il dit lui-même qu'il est un logo. Ne serait-ce en fait le meilleur moyen qu'on le laisse en paix? Marionnette médiatique, selon ses mots, cette image comme une diversion poussée à son paroxysme ne lui permettrait-elle, paradoxalement, d'être tout simplement tranquille dans sa solitude? Tranquille pour dévorer les livres et enchaîner les créations. Karl Lagerfeld a laissé des œuvres photographiques et des centaines de collections, mais selon les spécialistes, il ne laisse pas véritablement d'héritage. Il n'y a pas un style Lagerfeld, plutôt une façon de capter et d'extrapoler la tendance, de l'adapter au nombre, une façon d'avoir compris avant les autres le passage de l'artisanat à l'industrie, en plus d'être un surdoué du marketing. Ce qu'il laisse, ce n'est pas véritablement une œuvre, c'est lui-même, ou plutôt l'image qu'il s'était choisie. Et qu'importe après tout la vérité. Je peux mentir à tout le monde, mais je ne peux pas mentir à moi-même, a-t-il déclaré. Et c'est au final le plus important.
Europe 1, historiquement vôtre.